Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous. Sébastien Plaquet, l'investissement immobilier se gère comme une véritable entreprise. D'une formation d'expert comptable, il lance rapidement sa propre activité de gestion de portefeuille et de patrimoine. L'immobilier apparaît alors comme une solution d'investissement qui, avec une stratégie adaptée, peut considérablement augmenter la rentabilité. Sébastien nous raconte sa première opération de division d'une vaste maison en plusieurs appartements et comment, près de 20 ans plus tard, il se lance avec sa compagne dans un projet d'agrandissement et de construction du premier hôtel haute qualité environnementale d'outre-mer en plein cœur de Nouméa. Stratégie de financement, optimisation fiscale et gestion des multiples problèmes liés à un projet d'une telle envergure, Sébastien nous délivre ses conseils à travers des retours d'expérience très concrets et nous raconte son parcours atypique, plein de rebondissements. Sans plus attendre, laissons place à Sébastien Plaquet. Donc Sébastien Plaquet, bonjour. Je suis ravi aujourd'hui de t'accueillir dans cet épisode du podcast. Merci beaucoup parce que je sais que tu as déjà un emploi du temps très chargé. Et je sais aussi que tu vas pouvoir apporter énormément de valeur aux auditeurs du podcast puisque tu as une expérience en fait au niveau professionnel et personnel qui est extrêmement riche sur tous les plans. Quand on parle d'immobilier, hein, puisque c'est vraiment le sujet qui nous intéresse dans ce podcast, et également dans tout ce qui est gestion financière et investissement en général. Donc tu es aujourd'hui gérant de l'hôtel et de la société Gondwana, qui se trouve à Nouméa. Donc c'est un hôtel 2 étoiles qui a récemment ouvert. Hein.
Tout à fait.
Et tu as également une formation d'expert comptable. Et tu as aussi pratiqué dans le monde de la gestion de patrimoine. Tu vas un peu nous expliquer tout ça parce que t'as beaucoup de casquettes en réalité. Et je pense que c'est très très intéressant de voir un peu comment toi tu as pu assembler toutes ces casquettes pour monter tes projets et monter ces sociétés que tu fais aujourd'hui. Est-ce que en quelques mots tu peux te présenter, raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené en fait à faire ce que tu fais aujourd'hui?
Alors j'ai toujours été merci de m'accueillir déjà.
Merci à toi.
J'ai toujours été dans un milieu de chef d'entreprise. Mes parents, mes grands-parents étaient chefs d'entreprise et j'ai toujours été participé très tôt à la vie de l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire des études d'expertise comptable parce que je trouvais que c'était un moyen de mieux gérer l'entreprise, donc quelque part d'être plus efficace. Et une fois que j'ai fini ce cycle d'études, je me suis dit que à revenu constant, une bonne gestion de patrimoine permettait au fil de la vie de s'en sortir mieux. J'avais l'exemple par exemple chez les agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui faisaient des récoltes régulières, par exemple dans le blé. Ouais. C'est pas des gros revenus, mais c'est régulier. Et il y avait des agriculteurs qui faisaient des pommes de terre où les revenus pouvaient être 10 fois plus élevés d'une année sur l'autre. Et ils gagnaient en moyenne beaucoup plus d'argent, mais sur une période de 10 ans, généralement les premiers s'en sortaient mieux que les deuxièmes, parce que la stratégie patrimoniale était meilleure, puis les premiers surinvestissaient, enfin les deuxièmes, la pomme de terre, surinvestissaient quand ils avaient beaucoup d'argent pour moins payer d'impôts. Enfin bref, toute une histoire. Donc il y avait une réflexion. C'est pas forcément les revenus annuels qui font que à terme on s'enrichit plus, c'est la régularité ou d'autres paramètres. Donc plutôt la gestion de patrimoine. D'accord. Ça m'a occupé après, donc je me suis lancé, j'ai travaillé, j'ai créé ma propre société.
Donc là tu peux nous recadrer un peu, c'était à quelle époque, quelle année, dans quel endroit?
Alors c'était à Paris, dans les années 90, mais je me souviens plus exactement lesquelles.
Ah, c'est 93-94,
un truc comme ça. Et donc j'ai été salarié d'abord 3 ans, parce qu'il faut quand même apprendre un petit peu chez les autres. Et puis je me suis lancé très très tôt et en 2-3 ans je gagnais suffisamment ma vie pour faire d'autres choses, donc ça s'est très très bien passé. Et après j'ai toujours été tenté aussi par la bourse, donc la gestion financière on va dire, Et j'ai rajouté cette casquette-là et j'ai créé ma propre société de gestion de portefeuille. J'avais déjà créé mes propres contrats d'assurance vie, donc pour loger tout ça à l'intérieur. Et puis c'était assez loin dans la gestion de portefeuille où j'ai eu l'autorisation de faire des produits dérivés, enfin ma société de gestion, j'entends.
D'accord.
Et des fonds contractuels, du non-coté, enfin, donc une palette très très large d'outils d'investissement. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à venir investir en Nouvelle-Calédonie dans des produits non-cotés, et notamment à base immobilier. Donc voilà, la boucle est bouclée.
D'accord.
Donc ça a permis de faire pas mal de choses. Donc je me suis bien amusé dans tous ces trucs-là. Puis après, bon, j'ai changé et je suis venu habiter en Calédonie. J'ai rencontré ma femme actuelle. Et elle était propriétaire d'un hôtel et elle menait déjà un projet de remise aux normes, agrandissement, et puis je l'ai géré avec elle. Et voilà, ça aboutit.
D'accord.
Ça aboutit il y a quelques mois.
D'accord. Donc c'est ce fameux hôtel Gondwana où
tout
on se
fait.
Trouve aujourd'hui.
C'est ça.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, si les auditeurs, gestion de patrimoine, ça parle pas forcément aux personnes qui sont débutantes, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et de là, faire peut-être les liens qui peuvent exister entre tout ce qui est investissement, les différents types de supports, dont celui de l'immobilier, et voir un peu, toi, comment ta vision des choses par rapport à toutes ces facettes qui font qu'un investissement va être rentable, que ce soit dans l'immobilier, dans une société ou dans une gestion long terme, comme tu nous en parlais au départ.
Alors, la gestion de patrimoine, c'est de choisir les meilleurs véhicules, donc là où on va payer le moins, la stratégie fiscale, parce que ça a un gros impact dans nos latitudes. Il y a ça. En premier lieu, c'est pas ça. En premier lieu, c'est d'abord, on se rend compte que si on place régulièrement une petite somme sur le long terme, ça donne d'excellents résultats. Donc ça va être une planification déjà. Ça peut être une planification.
C'est les fameux intérêts composés.
C'est les fameux intérêts composés. Et d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, ils ont un nom différent pour la personne qui fait la planification de celui qui fait la stratégie patrimoniale. Donc nous, on a le même vocabulaire conseiller en gestion de patrimoine, mais ça recouvre des grosses, grosses différences. Donc moi, j'ai fait... Il y a des outils, il y a des logiciels, Harvest, par exemple, pour en citer un, où on fait... Quand on rencontre un client, on remplit toutes les données, puis on va avoir des bons camemberts et on va avoir les impôts qu'on paye année après année. Donc c'est un outil, ça va beaucoup être utilisé par les banques par exemple. C'est un outil qui est très intéressant.
D'accord, donc tu simules vraiment en fonction des scénarios d'investissement que tu peux faire sur le long terme, qu'est-ce que ça donne, quoi.
Déjà, tu fais une photo, parce que les gens n'ont pas l'habitude de faire une photo de leur patrimoine, à part ceux qui en France payent l'ISF, par exemple, ce qui était le cas de beaucoup de mes clients. Donc ça permet de faire une photo, parce que tu mets sur le papier tout ce que tu as, combien ça vaut, tout ça.
Okay. L'état
initial. Et ce qui n'est pas pratiqué naturellement par les particuliers. Quoi. Et après, avec une casquette aussi entreprise, parce que ça me passionnait. Donc, comment optimiser les revenus du chef d'entreprise? Donc, il y a des stratégies qui peuvent être très intéressantes pour diminuer l'impact fiscal que le particulier va subir via son entreprise. Donc, comment faire que 100 francs ou 100 euros maintenant, avant impôt, il y en a le plus possible dans la poche et pas 30 euros
c'est
aujourd'hui.
Ça.
Donc, moi, j'avais des techniques qui permettaient de garder 80, un peu plus de 90 francs.
D'accord.
Donc, c'était assez intéressant. Donc, ça a bien marché aussi. Et
des donc, techniques que tu pouvais adapter à tous tes clients ou en fonction des profils,
c'est toujours en fonction des profils et c'est toujours, ça prend plusieurs années à bâtir pour arriver à un tel résultat et une telle efficacité. Il fallait quand même, c'est quand même beaucoup de travail, ça se faisait pas et il fallait que le jeu envahisse la chandelle parce que moi j'y travaille beaucoup aussi. Du coup, je demandais des honoraires.
Ah, bien sûr.
Donc, je le faisais pas, ça se faisait dans certaines circonstances. Et avec le plus compliqué, c'était de trouver un client qui comprennent parce que ça sortait des sentiers battus et qui comprennent et qui osent prendre les risques de sortir de ce que fait monsieur tout le monde.
Ouais,
c'est ce qui se pose un peu dans toutes les stratégies patrimoniales parce que si on fait ce que fait tout le monde, ben on a la rentabilité de monsieur tout le monde.
Est-ce que tu peux nous citer un exemple qui te vient à l'esprit pour que ce soit peut-être un peu plus parlant pour un exemple d'optimisation fiscale?
Il y en a plein, mais là, je n'en ai pas. Bon, le refinancement de compte courant d'associés dans une société, par exemple. Donc, ça permet, en Calédonie, il y a beaucoup de, les financements des sociétés se font beaucoup par les comptes courants d'associés, avec plein d'inconvénients. C'est-à-dire que le compte courant, quand la personne, si la personne décède, parce qu'il y a aussi tout un aspect prévention dans la stratégie patrimoniale. Ouais. Quand on emprunte, on a une assurance décès. Donc, on s'achète une grosse assurance décès pour sa famille. Donc, on met, quand on est entreprenant, paradoxalement, on met sa famille à l'abri du besoin en cas de pépin.
Ouais,
et entre guillemets gratuitement, enfin, pour des gros montants, et pour un et c'est obligatoire, les banques l'exigent, et c'est pas pour des gros montants annuels. Quand on gère bien le truc aussi, là aussi ça s'achète, on peut acheter des assurances dédiées plutôt que d'avoir l'assurance de la banque.
Enfin, oui, tout à fait, pour en parler, ça c'est
délégation. Donc je me perds un petit peu, donc il faut me recadrer.
Tu parlais de remboursement des comptes associés dans les sociétés.
Refinancement, c'est-à-dire
refinancement.
Parce que notamment quand on va vendre sa société, si on a un compte courant d'associé, ça ne la valorise pas du tout, parce que c'est une dette de la société.
D'accord.
Donc l'acheteur va pas mettre des sous pour que l'ancien propriétaire reprenne le compte courant. Donc en général, ça se valorise pas. Donc c'est pas intelligent de vendre une société avec des gros comptes courants. Vaut mieux les refinancer. Par exemple, quand on prépare sa cession, faut s'y prendre plusieurs années avant. Et donc on va faire un emprunt à la banque. Donc c'est un package à vendre. L'argent, on va le prendre à titre personnel. On va le placer sur un contrat d'assurance vie qui va être nanti par la banque. C'est la garantie que va prendre la banque. Mais là, la différence, c'est que tous les revenus de ce placement, c'est un gain personnel et c'est plus un gain de la société. Et puis, en cas de décès ou de succession, c'est exonéré d'impôts, puisque ça, on va mettre ça généralement dans un contrat d'assurance
vie. D'assurance vie, ouais, voilà. C'est donc, ça qui fait que tu as des avantages.
Il y a des avantages, ouais, par exemple. Mais okay. C'est un cas, puis c'est, généralement, c'est packagé, on va pouvoir avoir un taux de financement plus faible que ce qu'on peut escompter si c'est bien compté. C'est okay. Un exemple.
Okay.
Il y en a vraiment autant que...
Ouais. Ok, donc ouais, si je comprends bien, c'est vraiment comment organiser la comptabilité pour se placer dans des enveloppes ou des niches qui sont moins imposées ou plus allégées sur le plan fiscal.
Tout à fait. Les particularités calédoniennes, par exemple, c'est qu'on peut avoir beaucoup de frais professionnels qui sont tolérés en Calédonie, qui le sont moins en métropole. Donc le fait d'avoir le statut de chef d'entreprise, ça permet de faire une optimisation patrimoniale personnelle, par exemple. Il y en a plein. Et ça peut aller jusque, pour les clients les plus fortunés dans certains cas, avoir des stratégies patrimoniales où on va loger les actions de l'entreprise dans, moi ce que j'avais fait par exemple en plan d'épargne d'entreprise, dans l'épargne salariale qui est exonérée de tout impôt, ou bien dans des contrats d'assurance vie sur mesure, type Luxembourgeois et autres, où on peut arriver donc à mettre la source de revenus dans une enveloppe qui sera défiscalisée. Ou par exemple sur un fonds commun de placement. Sur un fonds commun de placement, on ne paye pas d'impôt. Donc si on a logé ses propres actions dans un fonds commun de placement, ça défiscalise. Enfin,
d'accord. Ok.
C'est très vaste.
Tout à fait. Et du coup, toi, en fait, on est effectivement dans un podcast, on parle d'immobilier. Où est l'immobilier dans cette histoire? Je reviens à ce que tu me disais tout à l'heure. C'est pour toi, et ça qui est intéressant, j'aimerais que tu nous expliques un peu ta vision de l'immobilier en tant que support d'investissement. Mais tu disais, tout dépend ce qu'on va en faire, en fait.
Voilà. Pour moi, l'immobilier est que un support d'investissement. Il a l'énorme avantage d'être facilement finançable parce que ça plaît beaucoup aux banques. Il a l'inconvénient d'avoir une rentabilité standard qui n'est pas très élevée. Donc d'où la valeur ajoutée que peut apporter l'investisseur. C'est s'il sort des sentiers battus, s'il utilise, par exemple, ça a été le cas d'un loueur meublé professionnel en métropole il y a quelques années, ou s'il utilise d'autres avec le même support, s'il utilise... s'il est un petit peu créatif et qu'il va plus dans le domaine de l'entrepreneuriat sur base immobilier, on peut faire des choses intéressantes avec une capacité de financement facile parce que c'est très bien accepté des banques. C'est-à-dire qu'on accepte avec l'immobilier un effet de levier considérable.
Ouais.
Un effet de levier 10 est très courant dans l'immobilier, c'est-à-dire que vous avez 10 euros, vous empruntez 90 euros, vous investissez 100 euros. Donc tout le monde fait ça pour acheter une maison par exemple, donc c'est un effet de levier de 10. Ça paraît complètement délirant. Allez demander à votre banquier si vous voulez investir 1 million d'euros en bourse et que vous n'avez que 100 000 euros, le banquier ne va pas vous financer 900 000 euros. Donc l'immobilier a l'énorme avantage d'être jugé sans risque par le financeur, le banquier, donc ouais. Où, de pouvoir faire des effets de levier complètement dingues qui ne seraient pas acceptés dans d'autres ouais. secteurs. Et bon, après, l'intérêt, c'est d'avoir un retour sur investissement élevé, donc ouais, avec ça. Une certaine créativité, d'avoir un retour sur investissement plus fort que la moyenne des investissements immobiliers. Mieux choisir l'emplacement, enfin tous les critères
en base,
et puis d'avoir un delta entre le montant de financement et puis le retour sur investissement avec l'effet de levier le plus fort possible, parce que ça multiplie par 10 ou par je sais pas combien. Ouais, et c'est l'intérêt, et je le vois plus comme un placement financier dont le support est immobilier. Et si le chef d'entreprise qui le gère est doué, ça dépend essentiellement du chef d'entreprise. Je m'amuse à dire, parce qu'on dit le premier critère de l'immobilier, c'est l'emplacement. Ouais. Et moi, je dis non, c'est le chef d'entreprise. Parce que vous pouvez mettre le meilleur immobilier du monde dans les mains d'un chef d'entreprise mauvais, et il arrivera à avoir des très très mauvais résultats. Et vous pouvez mettre un immobilier moyen dans le cas de quelqu'un qui est génial et d'avoir des super résultats. Donc la différence, c'est la clé, c'est vraiment le chef d'entreprise pour moi.
Et ouais. Et du coup, cette habileté que le chef d'entreprise, donc le gestionnaire finalement l'immobilier, hein, oui. parce que tu vois ça comme une entreprise, hein, c'est vraiment ça. C'est tout dépend ce qu'il va faire et la stratégie qu'il va adopter. Tu parlais.
Ça va être son intelligence commerciale, ça va être comment il peut vendre plus cher que les autres un produit en découpant un immobilier, en faisant de la location immobilière. Ça peut être la stratégie patrimoniale à moyen terme, ça peut être plein de choses, ça peut être la façon dont il est capable d'aller chercher des financements plus intéressants, avec un effet de levier plus fort, en apportant moins d'argent, voilà, c'est tous ces critères-là, en y croyant, et pas en écoutant bêtement ce qu'on dit, ce qu'on entend à droite à gauche, ouais. Okay. Endettement, ouais. Voilà. Ouais. Donc il faut avoir s'il a une force de conviction et qu'il arrive à emmener... tous les gens autour de lui avec sa vision, il pourra avoir des résultats qui peuvent être très très intéressants.
Ouais, donc c'est vraiment cette créativité, tu dis, hein, finalement, qu'on peut avoir, par exemple en écoutant ce podcast, ça peut donner des idées à des personnes.
Bien sûr.
Et en lisant des livres, effectivement, sur l'immobilier ou l'investissement. Mmh. Et donc, tu nous as parlé, en fait, du statut de loueur meublé professionnel ou non professionnel. Mmh. Est-ce qu'on peut faire cette petite parenthèse en fait avant d'aborder vraiment le gros morceau D'accord. de ce que tu vas nous raconter sur l'hôtel, oui. Cette petite expérience, tu disais que tu avais lancé des opérations il y a quelques années
avec mes parents, ça permettait d'acheter de financer à 100% l'achat d'un bien immobilier, si possible dans un secteur qui prendrait de la valeur. Là, ça avait été le cas, c'était une ville où il n'y avait pas d'autoroute et l'autoroute est arrivée 2-3 ans plus tard.
D'accord, c'est quelle ville ?
C'était le Touquet en France.
Le Touquet,
station balnéaire.
Donc ça se situe dans
le Pas-de-Calais, mais c'est une station. Les Parisiens vont dans des stations Deauville, Trouville, donc en Normandie, ou bien aussi pour certains dans le Pas-de-Calais, donc plus au nord.
D'accord.
Donc ça s'appelait le Touquet Paris-Plage. Donc,
D'accord.
Et là, c'était un super coup fait par un. Je crois que c'était un agent immobilier de région parisienne ou d'un bord de mer où il n'y avait rien du tout. Il a créé ex nihilo une ville. Donc lui, il a fait, à mon avis, beaucoup d'argent. Il n'y a pas si longtemps des Bugatti dans son. Donc il avait.
Ah, c'était à quelle époque ça?
Je pense 1800 quelque chose, 1900 ou début. Non, fin 19e, donc 1800, je ne sais pas combien,
70. Et du coup, ton opération à toi, c'était plus à...
Moi, c'est une opération récente,
il n'y a pas très très longtemps.
Une vingtaine d'années, on va dire.
Ouais, relativement récente.
Et donc, c'était un achat d'une très grande maison, qui faisait, je ne sais pas, plus de 1000 mètres carrés, coupée en appartements et en meublé. Et mes parents habitaient sur un étage et demi, et en louant le reste, ça finançait à 100% le...
D'accord, maison. Donc en fait, vous aviez acheté cette maison de 1000 appartements et vous l'aviez découpée vous-même, hein ?
Oui.
D'accord.
Découpée, enfin, il y avait des travaux, bien sûr.
Ouais, d'accord.
Et c'était une station balnéaire, donc l'été c'était très coté, donc ça permettait de très bien vendre les semaines à des touristes. Et l'hiver c'était loué à des étudiants de l'école hôtelière, parce qu'il y a une école hôtelière réputée au Touquet, donc ça permettait de faire une mauvaise saison, saison haute, saison basse.
Ça garantissait une vacance assez faible finalement.
Zéro, pour ainsi dire. Quoi.
Et combien, nous rappeler le nombre d'appartements, en fait, et du coup, leur surface, c'était des petits studios.
Moi, je ne me souviens plus. Il y en avait 8 ou 10, un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement.
Et à cette époque, ça a été facile de diviser, c'est-à-dire, j'imagine, pour tout ce qui est réseau électrique, tout ça, vous avez dû tout refaire.
Oui.
Peut-être demander des autorisations en mairie.
Non,
comment ça se passe?
Au niveau réglementaire, c'était assez cool. Mais au niveau travaux, oui, c'était un peu compliqué. Mais tant que en fait on était exploitant, c'était très simple. On avait qu'un seul compteur électrique parce que nous on
voulait,
c'est facile. Si après on revente, la vente c'est un peu plus compliqué là où il faut avoir X compteurs.
Effectivement.
Mais avant la vente, c'était pas un souci.
Ok. Et du coup, vous êtes resté comme ça.
Mes parents sont restés là.
Et j'imagine peut-être un seul tout à l'égout pour les appartements.
Ah,
et...
C'était assez simple.
Ok. Et ces biens-là, vous les avez encore aujourd'hui?
Je crois pas. Après, c'est ma mère qui s'en occupe.
D'accord. et tu te rappelles un peu de la. Tu dis que ça s'autofinançait, même un revenu finalement.
Non, faut pas exagérer. Ça s'autofinancer, mais ça permet de loger dans un coin très intéressant et avec des surfaces importantes qui étaient gardées par mes parents sans loyer en fait.
D'accord.
Ça permet et puis de se construire un patrimoine. C'était un endettement court, je me souviens plus, 10 ans.
Ouais, ce qui explique aussi peut-être que tu n'avais pas de revenus supplémentaires avec des mensualités assez élevées.
Tout à fait.
C'est sûr, sur 20 ans avec.
Oui, sur 20 ans,
8 appartements, je pense en location, tu pouvais peut-être. D'accord.
C'était des opérations quand même importantes, ça. C'était supérieur au million d'euros à l'époque, je crois.
Ah, bah effectivement, ouais. C'est une sacrée surface. Super.
Puis après, ils ont renouvelé, ils en ont fait une autre ville en ville. Donc ça a fonctionné assez bien. Dès l'instant où le côté fiscal était bien géré. Parce que c'est important aussi, parce que sinon, la sortie, comme dans n'importe quel investissement, et surtout pour les chefs d'entreprise et dès qu'il y a de l'immobilier, il faut toujours prévoir la sortie, quoi. L'exit stratégie, c'est très important, parce que si c'est après pour reperdre ce qu'on a gagné pendant longtemps, c'est un peu dommage. Ouais.
Par exemple, sur une imposition à la revente.
Par exemple, en Calédonie, ça va être le cas d'une SCI à l'IS, où à la revente, on va payer 30% d'impôt sur toute la plus-value. Donc, il y a des choix à faire, il y a des organisations à prendre. C'est dommage de... Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans tout, mais il faut essayer de le gérer habilement pour ne pas être pénalisé à la sortie.
D'accord. Effectivement, ouais. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne prend pas forcément en compte, surtout au départ, surtout dans les premiers investissements. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs qui disaient faire plusieurs scénarios dans ton investissement. Si ça ne se loue pas en meublé, par exemple, est-ce que je peux louer en non meublé? Si ça ne se loue pas en non meublé, est-ce que je peux faire autre chose? Etc. Et voir un peu les différents scénarios et jusqu'à quel scénario tu peux accepter une rentabilité amoindrie, finalement. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. Du coup, on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet. Cet hôtel, est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes organisé pour lancer ce projet?
Oui, donc c'est un projet qui date maintenant d'il y a une bonne dizaine d'années, donc ça a été assez long et assez dur. La difficulté, c'est essentiellement l'obtention des financements dits en défiscalisation locale et nationale. Quand on l'a lancé, la défiscalisation locale sur Nouméa était plus. Qu'est-ce que c'est la défiscalisation?
C'est bien de le rappeler, ouais.
C'est. La locale et la nationale sont très différentes, mais on va dire que c'est une avance de fonds pour la collectivité, voire un don, une subvention, on va dire, qui permet dans certains cas d'aller entre 25 et 30% du financement, éventuellement x2 s'il y a la double défiscalisation. Tout dépend aussi du temps de la construction et du secteur où les taux vont être plus élevés. Par exemple, en brousse et pour une construction rapide, les taux sont majorés. Donc,
concrètement, la défiscalisation, c'est que tu ne payes pas d'impôts.
Non, c'est une subvention, c'est un apport d'argent, de financement.
D'accord.
Voilà, tout simplement. La défiscalisation nationale, bon, c'est tout, tous les artisans et les chefs d'entreprise qui achètent une voiture savent qu'ils vont avoir entre 25 et 30% de cadeaux fiscaux, de réductions payées par, avec un montage où on devient locataire pendant un certain temps. Mais le résultante, c'est cadeau fiscal de l'État français.
D'accord.
Ça, c'est ce qui est assez cocasse en Calédonie, parce qu'on paye nos impôts en Calédonie et pas l'État français.
Ouais.
Et l'État français nous donne un cadeau d'impôt des métropolitains.
D'accord.
Hein, et redistribue. Donc, c'est un gros cadeau qu'on a, une grande chance qu'on a.
Et c'est la même chose que tu utilises finalement ici pour l'hôtel.
Ouais, ça, c'est de la défiscalisation nationale.
Nationale.
Qu'on n'a pas eu pour l'hôtel.
Ok.
Et la défiscalisation locale, c'est un autre montage où c'est les mêmes genres de pourcentage. Ça, par contre, ça a une grosse différence, c'est que ça te permet de financer la construction. Donc, tu as l'argent de toute ta construction avant de la faire. Donc,
d'accord.
Et tu vas devoir emprunter pour rembourser un peu plus de 70%, parce que tu vas avoir le cadeau qui reste, entre guillemets,
okay.
Au moment de la livraison de l'immobilier. Donc, quand tu vas pouvoir exploiter. Donc, ça te permet de ne pas avoir d'intérêt intercalaire pendant toute la construction.
D'accord.
Donc, c'est assez avantageux.
Comme un apport finalement.
Clairement, c'est comme une subvention,
un apport,
tout à fait. Et avec la différence, par contre, c'est que tu le reprends après sur 15 ans, donc tu le réintègres dans tes impôts. Donc tu vas payer à terme si tu es rentable. Et bon, à part les entreprises publiques, les entreprises privées, si elles peuvent exister, pour pouvoir être financées, elles doivent être rentables. Donc tu vas payer une fiscalité de 30% du cadeau que tu as eu.
D'accord.
Donc voilà,
ça c'est-à-dire chaque année en fait, c'est
chaque année tu réintègres, donc là c'est sur 15 ans si ma mémoire est bonne, tu réintègres un 15e du cadeau fiscal que tu as eu initialement et sur lequel tu vas être fiscalisé.
Et 15 ans c'est forfaitaire ou c'est calibré, je veux dire, ou c'est en fonction de la durée de ton crédit pour le restant?
Oui, c'est toi qui choisis.
C'est toi qui choisis.
Donc bon, pas nous, chez nous on a choisi ce terme-là.
Ok. D'accord. Et du coup, ça n'a pas été facile à l'obtenir, tu disais.
Alors, la défiscalisation locale, au début, elle était bloquée parce que donc les décisionnaires politiques avaient choisi de plus financer de nouvel hôtel sur Nouméa, en estimant que la capacité hôtelière était suffisante. Donc, mais ça, on a su ça une fois qu'on avait déposé notre demande, donc on avait financé toutes les études. Donc pour un projet immobilier, il faut aller jusqu'au DCE pour avoir le chiffrage des entreprises. Donc, c'est facilement 6-7% d'un projet.
Okay. DCE, c'est-à-dire
dossier de consultation des entreprises.
Okay.
Donc, on a déjà obtenu le permis de construire, on a déjà fait les plans, obtenu le permis de construire.
D'accord.
Et là, on rentre dans le détail, où va passer les chemins électriques, tout ça, pour qu'on puisse chiffrer chacune des entreprises, l'électricien, le plombier. Okay.
C'est un devis détaillé.
C'est un devis détaillé sur lequel l'entreprise s'engage, ferme et définitif.
D'accord.
Donc, il faut que ce soit très détaillé. Et donc, ça nécessite donc d'avoir dépensé généralement 6-7% d'honoraires d'un projet. Donc là, c'est un projet qui tourne sur le milliard de francs, donc ça veut, vous allez faire un calcul.
D'accord.
Donc ça fait des sommes assez importantes.
Et
une fois qu'on a déposé tout ça, en montrant pas de
blanche... Donc on est en CFP, hein.
On est en CFP.
Oui, parce que pour les auditeurs métropolitains, voilà. Un milliard de francs.
On est en CFP, tout à fait. Donc tout ça, on a appris a posteriori, donc une fois qu'on avait tout fait, tout financé et déposé, que, ah ben non, on décide de suspendre le financement de ce genre de projet. Donc
coup de sueur.
Il y a une grosse prise de risque comme d'habitude, malheureusement, un système administratif ou politique qui déconsidère les chefs d'entreprise et qui ne prévient pas, dans 2 ans, on va arrêter ça. Donc, si on monte un projet ou dans 1 an, qui nous prévient a posteriori. Donc, c'est un peu désagréable, mais c'est comme ça. Du coup, ça a bloqué la défiscalisation nationale, puisque la nationale se positionne quand on a obtenu la locale, parce que ça serait.
D'accord.
Enfin, la logique est celle-là. Et du coup, on a eu un refus national, on a dû représenter, remodifier le projet, représenter. On a fini par obtenir la locale. 2012, donc 4 ans après avoir lancé l'opération.
Donc ils l'ont réintégré en fait.
Oui, ils ont décidé de le refaire. Non, ils ont décidé de le refaire et puis, enfin bon, bref.
Ok, d'accord.
On ne sait jamais exactement le pourquoi du comment, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Donc là, soulagement quand même.
Soulagement. Et après, on a pu aller rechercher le national qui a tardé et on a finalement eu un refus inexplicable en. Je sais plus, 2016,
quelques temps après, quoi.
Ça, 2015-2016.
Donc, quand même quelques temps après.
Avec avoir fait plusieurs dossiers.
Donc là, tu es toujours dans la phase dossier, il n'y a aucun travaux qui a commencé.
Tout à fait.
Hein.
Il y a toujours. avec la gestion, pour ceux qui vont m'entendre sur le permis de construire, avec toute la gestion du maintien de l'existence d'un permis de construire, à faire des petits travaux réguliers pour pas perdre le permis de construire, la validité du permis.
Ouais.
Ça met tout par terre. Hein. Commencer à zéro sans faire permis, il va là 3 ans.
D'accord.
Et après, il faut ouvrir le chantier. Enfin, 2 ans plus 1 an de rallonge obtenu facilement. Et après, il faut ouvrir le chantier et puis faire des petits travaux. À moins, je veux dire, un coup de pelle tous les ans, mais je caricature, mais c'est un peu ça.
Donc en fait, tu as commencé le chantier pour que ton permis soit activé en quelque sorte.
Tout à fait. Okay. Donc, ce sont des contraintes assez lourdes. Et on s'est adapté aussi aux travaux qui étaient faits dans notre environnement, parce que la rue a été refaite, donc on a décaissé. Pour éviter de repasser sur une rue toute neuve et de la nuit, on a fait le plus gros des décaissements avant.
D'accord.
Enfin bref, donc on a fait des travaux qu'on a jugé opportun. Pour permettre au permis d'être toujours valide, ce qu'on a obtenu, mais ce qui n'a pas été simple. Et puis finalement, on a décidé de lancer le projet après le refus en sollicitant Promo Sud, qui heureusement a accepté. Ça nous a permis de boucher les trous de la défiscalisation nationale qu'on avait prévue et qu'on n'a pas obtenue. Hein. On parle d'un peu plus de 200 millions de francs pacifiques.
Et qui est l'enveloppe de
la défisque nationale,
du montant qui correspondrait à la défiscalisation.
Voilà.
C'est des choses que toi, t'aurais pas eu à, enfin, vous auriez pas eu à
financer. Un cadeau, point. Finance. Voilà. Donc ça, cadeau, pas eu. Et donc, sachant que on est évidemment dans un secteur concurrentiel, hein, l'hôtellerie, et que tous les autres hôtels ont obtenu. Donc on se retrouve énormément désavantagé par rapport à nos confrères. Donc il faut être créatif pour pallier ce...
D'où la créativité. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez fait exactement avec PromoSud?
C'est une société d'économie mixte, donc détenue majoritairement par la PromoSud et minoritairement par les banques de la place.
D'accord.
Cette société a pour vocation d'aider au développement des entreprises calédoniennes. Elle est des secteurs prioritaires, donc les crevettes, par exemple, ou bien l'hôtellerie sont des secteurs prioritaires.
D'accord. Tout ce qui est de tourisme, quoi. Un peu dans ce cadre-là.
Oui. Donc il y a beaucoup d'hôtels qui sont portés par PromoSud, parfois intégralement, parfois c'est PromoSud qui initie les projets, comme par exemple Guarodeva. Ou les Méridiens.
D'accord.
Et après, on trouve après PromoSud va chercher un exploitant qui serait intéressé, mais l'exploitant n'est pas propriétaire.
Okay.
C'est pas le gérateur qui est propriétaire, lui, il gagne des sous quoi qu'il arrive.
Okay.
L'exploitant, pas forcément. Enfin, le propriétaire, pas forcément.
D'accord.
Okay. Et même quasiment jamais dans les projets montés par PromoSud en direct. Nous, on est un client privé et on sollicite un coup de pouce pour l'aide au financement, surtout dans ce cadre précis. Et comme on était un projet extrêmement innovant, donc on est le premier hôtel certifié.
Ouais, donc ça, c'est bien d'en parler. Hein,
voilà, haute qualité environnementale de tout l'outre-mer, là aussi, ça a été assez complexe.
Qualité environnementale de tout l'outre-mer,
voilà.
C'est-à-dire les dom-toms.
Tous les dom-toms et 8e métropole comprise. Donc quand on est régulièrement invité, là, on est encore invité début juillet à présenter. Le HQ dans l'hôtellerie avec Pierre et Vacances, Club Med bon, et nous. c'est assez cocasse parce qu'on était
excellent.
Donc on n'y va pas parce qu'on n'a pas le temps et pas les moyens d'aller faire ce genre de démarche. Mais bon, c'est assez sympa. Et bon, la certification, c'est une démarche sans doute trop lourde, mais nous, on a voulu aller. Parce qu'on peut faire la démarche HQE sans aller jusqu'à la certification, c'est-à-dire à une tierce personne qui met un coup de tampon, qui vérifie, qui audite. Et nous, ça nous a permis d'avoir un niveau de professionnalisme qu'on jugeait pas suffisant en Calédonie. Et on a préféré aller vers cette contrainte, parce que c'est une contrainte toujours pour l'exploitant d'être audité par des...
Effectivement, ouais.
Mais ça nous a donné un gage de qualité, de sérieux, parce qu'il y a d'ailleurs eu des travers qui ont été corrigés grâce à cette certification. Donc on en est très content.
Et tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste la haute qualité environnementale au sein de l'hôtel, concrètement, ce que avec vous deviez faire, et si vous ne l'aviez pas, vous auriez fait comment?
Alors, on aurait pu faire pareil, mais dans la pratique, les gens, quand ils ne font pas la démarche, ils ne le font pas. La différence, c'est quoi? C'est que on a une centaine de critères sur lesquels on doit être au moins au niveau base métropolitain, pas calédonien. Par exemple, le tri des déchets, niveau base métropolitain, c'est pas évident en Calédonie. Et un certain nombre de critères, un peu plus de la moitié, en niveau performant ou très performant, c'est-à-dire beaucoup plus performant que la législation. Par exemple, au niveau consommation électrique, notre hôtel consomme deux fois moins qu'un hôtel neuf en Calédonie ou en métropole.
D'accord.
Donc,
En consommation. Donc c'est quoi? C'est des ampoules basse consommation? Des appareils
C'est d'abord et avant tout une conception, c'est-à-dire que on va en Calédonie, comme les hôtels payent le courant pas cher, ils vont pas trop être sensibles à ça, et donc ils vont utiliser encore des outils des clims énergivores, par exemple du multi-split, parce que c'est plus facile à réparer. Enfin, ça a des avantages aussi. Par contre, ça consomme beaucoup plus que un VRV ou une clim centralisée, des techniques plus poussé, mais d'accord, beaucoup plus économe. Après, au niveau de l'eau chaude, on a choisi aussi un système innovant mais éprouvé en même temps, qui nous permet d'avoir 100% de nos besoins en eau chaude par des techniques renouvelables et pas par du. Il n'y a pas du tout de sonde électrique qui permet de chauffer l'eau.
Donc c'est quoi? C'est 100% solaire?
C'est solaire, mais c'est pas solaire. C'est thermodynamique solaire.
Ok. Parce que vous avez des panneaux thermodynamiques sur le toit, en fait.
On a des panneaux. C'est comme une pompe à chaleur, à part que l'échangeur, au lieu d'être ce qu'on voit dans une pompe à chaleur traditionnelle, c'est sous forme de gaz et ça va sur la toiture et ça capte la chaleur de l'atmosphère. Donc ça fonctionne été comme hiver. On n'a pas besoin d'avoir
c'est
un
intégré à votre toiture.
C'est des panneaux
posés par-dessus.
D'accord. Mais pas en verre comme les panneaux dur, quoi. Et on a aussi évidemment les panneaux classiques électriques en verre. Enfin, on a ça aussi sur la totalité de la toiture disponible.
D'accord.
Donc on a il y a cet aspect là, mais ça, il y a bien d'autres aspects. Il y a le choix des matériaux et des équipements. Pour la haute qualité environnementale, c'est d'abord des équipements de grande qualité, le but étant de ne pas les changer tous les 3 ans. Par exemple, classiquement, le brasseur d'air, dans l'hôtellerie, ça change régulièrement. Si on achète le moins cher qui vient de Chine, il tombe souvent en panne, donc on le change et on met à la poubelle. Donc on crée des déchets, on pollue l'environnement.
Effectivement.
Et c'est un coût sur le long terme. Si on raisonne sur 10 ans, 15 ans, c'est un coût bien plus élevé. Alors on achète du matériel beaucoup plus cher, de bien meilleure qualité, mais par exemple celui qu'on a installé a une garantie, le moteur est garanti à vie. Donc on n'est jamais sûr, mais on a une durée de vie beaucoup plus longue
quand même. Garantie qui.
Mais ça peut être 3 fois plus cher. Mais on a fait le choix d'avoir un équipement de qualité. On a une télé on n'a pas acheté chinois, on a acheté du Samsung haut de gamme. Enfin voilà. La literie pareil. Voilà. Donc des équipements de qualité. Donc ça. Ce que le consommateur, le client de l'hôtel va être content de trouver, parce qu'il
c'est sûr qu'il va faire la différence.
Voilà. Le mobilier, par exemple, c'est du Fermob, c'est super costaud.
D'accord.
C'est incassable.
C'est une marque, moi je connais pas. C'est quoi?
C'est une très très bonne marque française.
Française, d'accord.
Ouais, de mobilier très costaud, donc ça permet.
Comment
Fermob.
Fermob, ok.
Ouais. Enfin, tout est à l'avenant. Bon, c'est du haut de gamme, c'est cher, mais on est tranquille. Pour plus de temps, ça se dégradera aussi, mais pour plus de temps. Et on fera moins de déchets, c'est plus écolo aussi.
Et ça, c'est intégré le fait d'avoir des éléments de meilleure qualité pour produire moins de déchets dans la certification, ils en tiennent compte?
Non.
C'est plus votre démarche. Hein, c'est plus notre démarche.
Eux, ils vont tenir plus compte de la.
Des matériaux, tu disais.
Des matériaux très clairement.
La peinture.
Tout ce qui est matériaux, c'est
les émissions aussi.
Qui émettent pas de COV,
des meubles.
Tout est certifié CE. Donc ce sont tous des matériaux écologiques. Et bon, par exemple, pour la peinture, c'est une peinture qui capte les polluants de l'air. Elle dépollue. C'est une peinture qui dépollue l'atmosphère.
Ah ouais, carrément.
C'est dans l'autre sens. Donc, puis après, au niveau de la conception, il y a un énorme aspect, ce qui est de la maintenance. C'est-à-dire, on a beaucoup, un gros travail de conception pour faciliter la maintenance. Parce que si la maintenance est facilitée, on l'a fait. Parce que parfois, sinon, on la fait pas. Et donc, les équipements vont durer plus longtemps. C'est plus facile. On essaie aussi de réfléchir au travail des femmes de ménage. C'est un toilette suspendu et du carrelage au sol, imitation bois, c'est plus facile à nettoyer. Du coup, on le fait mieux, ça va plus vite. La vasque, il faut qu'elle soit facile à nettoyer avec un coup de. Enfin, plus pratique, bien conçu pour que ça se nettoie.
Ok, je vois. Ouais.
Donc, c'est beaucoup de la conception. Et après, il y a tout un aspect confort pour le client. Par exemple, on est extrêmement bien isolé. On est le seul hôtel de Nouméa à avoir du double vitrage. Donc, quand le client est dans sa chambre, il n'entend rien de l'extérieur.
Ouais, c'est insonorisé. C'est insonorisé. La rue qui est assez passante, notamment.
Tout à fait. Tout à fait. Et même par rapport à tous les hôtels de Nouméa, les Calédoniens ont l'habitude de vivre avec les bruits de l'extérieur. Là, on a, si on le souhaite, la possibilité de fermer la porte, fermer la fenêtre, et on va être
vraiment au calme.
Avec une VMC et une clim qui fonctionne, et on va être au calme. Donc, la qualité sanitaire des éléments, la VMC, enfin, il y a tout un ensemble de critères.
Ça rentre en compte, hein, il me semble, dans les certifications. C'est à violation thermique, notamment, peut-être aussi phonique.
Alors, thermique, ça se pose moins en Calédonie, parce qu'on n'a pas à lutter contre le froid l'hiver.
C'est l'inverse, du coup, faut garder le frais, quoi.
Voilà. C'est surtout une bonne VMC, c'est ça, la ventilation, un bon brasseur d'air de qualité bien positionné, et après, la clim pour les quelques mois où elle est d'un usage fortement sollicité.
Ouais, d'accord. Voilà.
Donc, c'est tout un ensemble de critères qui fait qu'on arrive à faire un produit particulièrement sympa. Et surtout, le gros avantage aujourd'hui pour nous commercialement, c'est que c'est le seul produit neuf de Nouméa. Et dans l'hôtellerie, on a une grosse barrière à l'entrée. C'est pas facile de monter un projet. Nous, ça nous a pris 10 ans. Donc, on n'a pas des concours en nouveau tous les ans. Donc là, on est tranquille pendant. Il n'y a pas d'hôtel qui se construit. Donc on a déjà.
Tranquille pour 10 ans.
Voilà. Au moins pendant un an ou deux, on n'aura pas de concurrents sérieux. D'ailleurs, qui peuvent offrir un même rapport qualité-prix. Parce que nous, la literie est neuve, les draps sont neufs, de qualité. Enfin, tout est neuf.
Ouais.
Dans un bâtiment neuf, donc il n'y a pas de taux de vétusté zéro, donc c'est pour le client
c'est
évident qu'on est beaucoup mieux que,
effectivement.
Qu'un hôtel comparable 2 ou 3 étoiles de la place, quoi.
Effectivement. Et du coup, tu nous disais, est-ce que ça a joué un rôle le fait d'être en HQE dans la défiscalisation, donc on reprend un peu notre histoire, on fait un petit aparté sur le côté technique.
Ça joue un rôle, et paradoxalement, contrairement à ce qu'on pensait, ça joue un rôle négatif. Les banques ont eu peur quand ils ont vu, parce que personne n'avait fait du HQE avant nous, et les promoteurs se justifiaient en disant qu'ils faisaient pas du HQE parce que ça coûtait trop cher. Donc les banques avaient l'impression qu'on allait dépenser 20% en plus qu'un investissement traditionnel. Ce qui n'est pas le cas au niveau équipement. Quand on dépense plus, c'est parce qu'on a des meilleurs matériaux, donc on s'y retrouve à long terme. Donc ce qui coûte vraiment plus cher et qui est plus compliqué, c'est les études. Alors, les études vont coûter un petit peu plus cher, pas beaucoup, un petit peu plus cher.
Ouais.
Mais surtout, ça prend plus de temps parce qu'il faut réfléchir. C'est pas, on va pas dupliquer quelque chose qui existe parce que faut créer, faut avoir une réflexion assez poussée. Et donc c'est ça qui est un petit peu lourd. Et donc une mauvaise presse vis-à-vis des banques sur le HQE. Qu'on a dû batailler pour expliquer l'intérêt, et que dans la mesure où on croit en l'avenir, si on se projette à 10-15 ans, c'est évident qu'en faisant des économies, on a un petit surcoût au départ, mais c'est largement compensé. Et ça, un banquier, quand on l'explique, il comprend assez facilement. Mais l'a priori était très négatif.
D'accord,
ouais, c'est paradoxal.
Effectivement, beaucoup de pédagogie à apporter dans le dossier d'éléments factuels, je pense, avec des chiffres
qu'on a dû faire aussi, paradoxalement aussi, dans la situation du bien. Comme on est situé au quartier latin, qui est un quartier qui monte, mais qui n'est pas le quartier des baies, pour le banquier, un hôtel, ça devait être sur des baies.
Donc les baies du sud, c'est les quartiers les plus cotés, on va dire, au niveau touriste. Pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas Nouméa.
Mais pour aux gens qui ne connaissent pas Nouméa, les hôtels en Calédonie, tous les hôtels, fonctionnent majoritairement avec des Calédoniens et pas avec des touristes.
D'accord.
Et donc le fait d'être dans Nouméa, parce que les Calédoniens, de Brousse et d'ailleurs, on n'a rien à. N'aiment pas aller sur un hôtel en baie, enfin ils vont pas aller à la plage qui à Nouméa forcément est plus polluée qu'en dehors de Nouméa. Donc pour eux la plage c'est
pas forcément un grand intérêt d'aller sur les baies.
Ça n'a pas d'intérêt et ils viennent plus en centre-ville et il y a que 3 hôtels en centre-ville qui ont des taux de remplissage beaucoup plus élevés et qui à catégorie comparable sont vendus plus cher. Donc on a dû montrer aux banquiers qu'en fait c'était l'inverse de ce qu'ils croyaient, que c'était en fait un secteur où il y avait peu de concurrence et où les prix étaient plus chers et où il y avait plus d'attentes de la part des clients.
D'accord.
Et pour un touriste, c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça, c'est une bonne base de départ pour aller ailleurs qu'en Calédonie. Et bon, voilà. Donc, on a dû expliquer ça et dans la pratique, on l'a démontré en faisant une étude concurrentielle. Vous voyez, les hôtels DB, les hôtels. Ils se sont rendus compte, c'était assez flagrant que. c'était plus intéressant de faire un hôtel en dehors des pays.
D'accord.
Mais bon, okay. Ça a beaucoup de pédagogie et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce que le banquier dit. Hein. Le banquier, c'est très intéressant. Il nous donne, c'est un professionnel du financement, donc du coup, par ricochet de l'immobilier. Donc, il a beaucoup de conseils à nous apporter. Après, c'est à nous de pas se vexer, de comprendre les arguments et de fournir de l'explication pourquoi notre choix est raisonné et rationnel.
Ouais, effectivement. Ouais. Et ça, je dirais même, ça peut être valable. Bah, ça, c'est un projet plutôt grande échelle pour effectivement quelqu'un qui investit à titre personnel, pas en société, mais qu'on peut aussi adapter en bien modèle. Sûr. À son petit appartement qu'on veut louer, par exemple, en meublé.
Mais très clairement, il vaut bien mieux choisir. En plus, en général, les endroits qui sont visés comme les baies sont des endroits qui sont très chers, peu accessibles. Donc, le prix du foncier va être élevé, donc c'est pas forcément intéressant. Enfin, tout dépend ce qu'on veut faire.
Ouais,
c'est pas forcément intéressant. Il vaut mieux avoir un quartier qui monte, comme par exemple le quartier latin à Nouméa, là où est situé l'hôtel, un quartier qui a la côte ou qui est dynamique. Avec des restaurants qui s'installent, avec des magasins intéressants.
Donc, ça se développe de plus en plus.
Ça se développe de plus en plus, mais même pour la personne qui achète un appartement, vaut mieux avoir un quartier périphérique qui monte, c'est-à-dire que on va l'acheter à un prix plus intéressant, mais qu'il y a des perspectives à 5 ans, 10 ans.
C'est ça. Ouais.
Plutôt que voilà. Donc il faut expliquer ça, faut être pédagogue, faut.
Super. Et du coup, via la structure PromoSud, pour revenir au financement, vous réussi à obtenir cette défiscalisation locale.
Alors, on avait déjà obtenu la défiscalisation locale quand PromoSud est rentré. On a eu la locale.
Et via cette structure, c'est-à-dire que vous avez intégré PromoSud dans la structure et eux, ils ont réussi à l'avoir. Du coup, comment ?
Alors, non.
Comment ça s'est passé ?
Une société d'économie mixte. Rentre toujours par l'intermédiaire. En fait, elle fait un apport en compte courant d'associé, c'est le schéma classique. Et donc, pour avoir le droit de faire un apport en compte courant d'associé, il faut être actionnaire de la structure à au moins 10%. Sinon, il n'y a que les banquiers qui ont le droit de prêter aux entreprises.
D'accord.
Ou les actionnaires. Donc, les financements tiers, comme les sociétés d'économie mixte, ou la défiscalisation nationale, ça fonctionne comme ça aussi. Ils deviennent actionnaires à hauteur de 10%, minoritaires, à hauteur de 10% ou un peu plus. Et comme ça, ça leur permet d'apporter en compte courant n'importe quoi.
D'accord.
Tout ou enfin, ce qu'on veut. Voilà.
Donc, c'est un peu ce que vous avez fait du coup.
Du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, on avait obtenu la défiscalisation locale. On a eu un refus de défiscalisation nationale. Du coup, notre plan de financement était bancal parce qu'il manquait 200 millions de francs pacifiques. Et PromoSud a accepté de boucher les trous à hauteur de 120 millions. Donc, ça nous a permis de financer nous-mêmes le reste et donc d'avoir des perspectives. Donc, on remercie beaucoup PromoSud d'avoir été.
D'accord, donc c'est pas la défiscalisation nationale qui a été débloquée, c'est une compensation.
Finalement. Une compensation, tout à fait.
Grâce à cet actionnaire supplémentaire.
Tout à fait.
Ok. Bah, super, merci pour cette explication. Effectivement, c'est un schéma qui s'est construit avec le projet, quoi. Hein, d'où la créativité dont on parlait. Soit à ce niveau-là, il faut apparemment pas en manquer.
C'est clair.
Et est-ce qu'on peut passer maintenant peut-être un peu plus rapidement parce qu'effectivement le temps avance et c'est super intéressant le côté construction, gestion de la nouvelle construction puisqu'il y a cet hôtel existant que vous avez rénové et le terrain d'à côté finalement que vous avez acheté ou acquis pour faire cette construction neuve.
Alors oui, on a acheté un terrain qui était limitrophe, qui donnait sur la rue Brun. Nous, on était sur la rue Lescourt, sur un terrain assez profond où il y avait l'hôtel plus un dock. Donc l'hôtel, on l'a pas encore rénové, mais on a détruit le dock. Et à la place du dock et du nouveau terrain, on a fait un nouvel hôtel qui communique, mais qui sont pas encore. Qui communique. Et donc après, ça implique on n'a pas fait une division parcellaire qui chez nous était volumétrique, donc assez complexe en technique de découpage, parce que la sortie de secours passe dans l'ancien bâtiment, donc la sortie de secours entre guillemets appartient aux deux bâtiments, il y a une copropriété entre les deux fonciers, donc il y a un peu de technique qui a été faite là-dessus.
D'accord.
Mais bon, c'est pas insurmontable et ça permet d'avoir deux entités juridiquement différentes.
Ok. Après, c'est entre les copros, peut-être que tu dois organiser des règlements.
Oui, mais bon, comme c'est entre nous et nous,
c'est plus facile. Quand c'est toi qui es aux commandes, c'est plus facile.
Mais bon, il faut un peu de créativité quand même, parce qu'une division volumétrique, c'est pas simple, quoi. C'est dans l'espace. C'est-à-dire que
par rapport aux sorties de secours,
exemple, on a deux chambres qui sont situées dans le bâtiment ancien, qui sont deux chambres du nouveau bâtiment. Donc, okay. dans une division où c'est l'étage du dessus, t'es dans un bâtiment, l'étage du dessous, t'es dans un autre bâtiment.
Ok.
Tu vois, c'est en volume, en 3D. Quoi.
Ok, je vois. Donc, t'as dû rénover une partie aux couleurs du nouveau.
Ça, c'est la joie des dossiers parce que. On a des brillants architectes qui nous avaient, quand ils ont compté le nombre de chambres pour notre dossier de défiscalisation nationale, se sont trompés de deux chambres. Du coup, on a un dossier avec une défis où il fallait sortir trois chambres. Et puis, sur les plans, il en manquait deux. Donc, on est obligé de faire deux chambres dans l'ancien bâtiment.
D'accord.
En bricolant.
Ah ouais, voilà. Effectivement. Non, donc, mais ça, voilà. c'est les joies des imprévus, mais c'est un bel imprévu. Là. Il manque deux chambres à l'hôtel.
C'est avec celui-là.
Ok, d'accord.
Donc c'est toujours la construction, c'est toujours assez difficile en Calédonie avec des rapports difficiles avec les professionnels et avec ça a été assez difficile. C'est pas fini d'ailleurs.
Qu'est-ce qui a été dans la construction? Donc finalement c'est société de gros œuvres. Après, tu as l'aménagement intérieur, le second œuvre, et on va dire tout ce qui est aménagement, salle de bain, et puis les finitions. Qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile en
On a eu la chance de s'appuyer sur une très bonne entreprise de gros œuvres, l'entreprise Pirel, pour ne pas la citer, qui était très sérieuse et qui a fini dans les délais, même avec un mois d'avance, donc on a été très contents.
Mais effectivement,
ils ont fait du bon boulot, ils ont été force de proposition, mais avec. C'était extrêmement compliqué avec la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, pour lequel le coup de crayon était très sympathique. Alors, on est très content du coup de crayon, donc un bon point pour l'architecte, mais un mauvais point, la gestion du chantier, ça a été catastrophique.
D'accord.
Catastrophique de chez catastrophique.
C'est lui qui gérait aussi le suivi
des chantiers.
Donc, c'est un métier quand même un peu différent que le crayon.
Oui, on n'aurait peut-être pas dû faire, mais bon, on apprend. Hein. Et alors, ça s'est pas bien passé du tout, et ça a été compliqué. Bon, on a finalisé quand même, hein. Ils ont quand même finalisé, donc ouf.
Compliqué, du coup, c'était des délais qui n'étaient pas respectés ou des choses qui n'étaient pas bien construites
Les deux, des oublis.
Okay.
Donc, les deux.
Okay.
Donc, mais bon, ça s'est bien déroulé. On a aussi le gouvernement de la défiscalisation locale s'obtient avec un arrêté du gouvernement. Comme on ne pouvait pas respecter nos délais, on a été obligé d'avoir un arrêté modificatif. Donc, c'était super chaud parce que si on ne l'avait pas, c'était 350 millions de pénalités et ils auraient pu ne pas le donner. Donc, un petit coup de stress.
C'est l'un des coups de stress du projet parce qu'apparemment il y en a eu beaucoup et vous avez quand même le cœur bien accroché.
C'est ça, donc c'était l'an dernier ça et ça s'est bien résolu. On a eu un grand merci, c'était Dunoyer qui maintenant est député qui connaissait la problématique du HQE parce que. Il a piloté le Medipol qui s'est fait aussi en certification HQ.
D'accord.
Après nous, mais qui s'est. Donc il connaissait la problématique, il connaissait bien le dossier et il a été très très sérieux et très réactif. Donc un grand merci à lui. Et on a été vraiment agréablement surpris de la réactivité des politiques. J'ai tendance à souvent les critiquer, donc là, quand ils font des choses bien, il faut le dire aussi. On était assez bluffés par la compréhension et la réactivité.
Ok, super. Et j'ose pas te demander quelle a été la pire galère, parce que tu nous en as tellement raconté.
C'est plus des expériences
dans le chantier ou dans la phase de construction, on va dire.
Il y en a eu tout plein, mais c'est pour nous, on le vit pas trop comme des galères, on le vit comme des nouvelles expériences. Et parce que si on le vit comme des galères, on se serait arrêté.
Ouais, effectivement.
On a dû tenir 10 ans quand même. La pire, je pense, c'est quand on a déposé notre dossier. Et qu'on a vu que c'était plus possible d'obtenir la défiscalisation locale sur Nouméa, donc ça fermait la porte aussi à la nationale.
Ça aurait pu s'arrêter du jour au lendemain, quoi.
Oui, ça s'est arrêté provisoirement. Bon, on a quand même continué à batailler, mais il a fallu tenir avec quand on a déjà investi 6-7% d'un projet, donc ça a fait 60 millions, et puis qu'on doit attendre 4-5 ans dessus, c'est pas.
Ouais, c'est quoi, c'est 500 000 euros, quoi. Enfin, en euros, l'équivalent pour les gens comprennent, donc c'est vraiment pas rien du tout. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que on pointe du doigt ce qui je pense est une des principales qualités d'un investisseur, c'est d'être capable de se relever et de s'adapter pour avancer malgré les problèmes, les difficultés. Et là, ce que tu nous racontes, c'est vraiment un exemple, je trouve, d'une manière de faire qui s'arrange, qui contourne, qui évite, que soit qui passe au-dessus, à côté, en dessous les problèmes, et qui trouve des solutions pour avancer et finalement arriver à se faire ce dossier malgré ces difficultés qui sont quand même
Parce que les problèmes sont après un on a conscience, on a toujours eu conscience que les problèmes sont aussi un avantage, c'est-à-dire que les autres, nos concurrents qui vont mener le même genre de projet après, auront les mêmes problèmes que nous. Donc si on arrive à le surmonter, c'est vrai qu'il y a une barrière à l'entrée très forte dans cet investissement, parce que justement, c'est compliqué, sinon tout le monde le ferait, il y aurait des hôtels à tous les coins de rue. Quoi. Donc c'est assez compliqué, et il faut. Et une fois qu'on a réussi ce parcours du combattant, bon, on est quand même sûr d'avoir un investissement. Du coup, ça a de la valeur. Demain, aujourd'hui, on a un hôtel qu'on pourrait revendre, même si on a un financement important. Parce que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident.
Complètement, ouais. Complètement.
Donc, bon, c'est 10 ans de travail, mais une création de valeur qui est là,
vraiment voilà. Concrète, quoi.
Donc, il faut raisonner plus sur le long terme en création de valeur plutôt qu'en galère et autres. C'est des expériences.
Bah, super. Merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la gestion, du coup, d'hôtel, puisque tu nous as raconté un peu. Depuis ces 10 dernières années, ton métier qui était un peu d'organiser les différents corps de métier, les différents intervenants, vous vous retrouviez, parce que t'es co-gérant, hein, je rappelle, avec ton épouse, vous retrouvez entre la banque, l'architecte, les politiques pour le dossier des fiscs, des nouveaux associés, donc vous êtes vraiment au cœur de ce process de réseau. Mmh. Et aujourd'hui, finalement, retrouver un peu à votre place de gérant d'hôtel, ça s'est lancé. Tu peux nous dire un mot sur la gestion au quotidien, ton travail, quoi, finalement.
Alors non, on s'occupe plus de la stratégie, d'ailleurs le positionnement stratégique de l'hôtel, mais pas de la gestion, pas de l'exploitation courante. Où là, on a recruté une directrice et un directeur adjoint qui s'occupent de la gestion.
D'accord. C'est délégué du coup.
C'est délégué. Parce qu'on a un autre projet d'hôtel sur lequel on travaille déjà depuis un certain temps.
D'accord. déjà sur un autre projet.
Oui. On a obtenu le permis de construire en fin d'année dernière, fin 16. Donc il est encore en cours de validité. Donc c'est le projet sur lequel on travaille actuellement. Et puis on a d'autres projets. Donc, okay. On veut dégager du temps et bon, après, on intervient quand même beaucoup parce que c'est le lancement. Hein.
Bien sûr, sur le
positionnement stratégique, est-ce qu'on se trompe, est-ce qu'on ne se trompe pas, qu'on se remet en
question. Là, c'est un peu des phases de test finalement.
Ça fait des phases de test.
Ça fait quoi, quelques mois que l'hôtel est ouvert hein,
Là, il va à peine être en pleine fonction, à peine aujourd'hui. Quoi. Okay, il y a encore des équipements qui ne sont pas complètement finalisés.
Ouais, parce qu'en même temps, je ne sais pas si on peut en parler, il y a un conteneur qui était bloqué quelque part en mer encore il y a quelques temps.
Oui, ça, on a vu.
Donc, okay. C'est assez exotique.
On ne s'en souvient même plus. Quand c'était les télés qui ont été bloquées. Sur le bateau qui s'est échoué sur un récif à côté de Marais, donc elles ont
à l'est de la Nouvelle-Calédonie.
Voilà. Donc on a attendu, on a été livré un peu plus tard que prévu. Mais bon, objectivement, comme on était très en retard nous-mêmes, ça nous a pas dérangé.
Heureusement.
Sinon, on aurait eu un hôtel sans télé où on aurait dû acheter en double les télés, ce qui est quand même un investissement, donc ça aurait pas été très
élevé. Ouais.
Voilà. Donc non, ça c'est bien fini. Puis il n'y avait pas du tout de détérioration de matériel. Donc tout s'est bien terminé.
Super.
Parce que pour être remboursé, pour faire jouer les assurances quand on a un conteneur comme ça bloqué, il faut qu'il coule.
Donc
s'il est bloqué sur le bateau pendant 2 ans,
je
caricature, mais voilà, tant pis pour toi.
Tu vas pas faire jouer l'assurance. Est bloqué voilà, en pleine mer.
C'est ça, donc c'est... Bon, on a appris encore.
Ouais, là, fallait pour anticiper ça quand même, il faut
y aller. Ça n'arrive jamais, c'est des trucs qui n'arrivent jamais. Voilà.
Comme quoi. Mmh. D'accord.
Tu as parlé de réseau un peu. Nous, on a la particularité dans l'hôtellerie et en Calédonie de pas du tout être dans le réseau. On n'est pas, on fonctionne pas sur des schémas hôteliers classiques. Pour nous, par exemple, c'est très, très, très hiérarchisé. Il y a pas. Nous, le personnel, on souhaite qu'il y ait une très bonne ambiance. Et la hiérarchie est pas trop pesante. Les gens qui sont en bas de l'échelle sont bien traités. Est-ce qu'il pas toujours fréquent, malheureusement.
D'accord.
Et on n'est pas dans des méthodes de pensée habituelles, les hôtels, y compris pour les classements et autres. On peut être classé 3 étoiles, on a choisi volontairement de se mettre en 2 étoiles.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est pas du tout habituel. Peut-être qu'on changera, qu'on se mettra en 3 d'ailleurs plus tard. Non, mais on n'est pas, on n'est pas dépendant d'un mode de pensée prédéterminé qui est dans un secteur. Donc ça nous permet d'être très créatifs. Parfois, on a du mal à être connu sur certains sujets parce que justement, on ne fait pas partie du réseau, machin. Mais là encore, on prend le bon côté d'être très créatif et de penser à faire d'autres choses. Par exemple, on a énormément favorisé les enfants avec des bains courants dans tous les escaliers, avec des toilettes
pour les enfants. Un espace dédié.
Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est
des petits jeux, des.
On a carrément un salle, on veut faire pas un family club, pas un baby club, un family club pour aider les familles à jouer avec leurs enfants, leur montrer d'autres méthodes de jeux coopératifs et autres. On est un petit peu militant aussi dedans.
D'accord.
Pourquoi pas accueillir des séminaires, des trucs. Donc on s'en sert aussi comme un outil et puis d'essayer de faire les choses autrement, d'amener les gens de Douma à l'intérieur de l'hôtel pour voir, parce que c'est un coin assez sympa. On a fait tout ce qui est planté, toutes les plantes que tu vois, c'est des aquas comestibles, donc les gens peuvent les manger, peuvent les cueillir. D'accord. Et les manger. On a des vélos électriques qui sont rechargés, on a une voiture électrique aussi qui est rechargée par l'électricité.
Okay.
Par l'hôtel.
Pour le personnel ou pour les clients?
Pour les clients, les vélos, okay. On les loue. La voiture, pour l'instant, on en a qu'une, donc on en a l'usage.
D'accord.
Mais l'idée aussi, c'est de faire venir régulièrement quelqu'un qui va réparer les vélos, le faire savoir dans le quartier pour que les gens du quartier puissent profiter de ses conseils, parce que c'est nous qui finançons son heure ou ses 2 heures d'intervention. Donc essayer de faire du lien dans le quartier, essayer que on a le projet aussi de faire un, là c'est pas encore en place mais j'espère que ça va bientôt arriver, d'un petit marché, un mini marché pour que les gens de brousse qui descendent dans l'hôtel apportent des produits à vendre, que les gens du quartier ou d'autres clients de l'hôtel puissent acheter.
Ouais, effectivement, c'est bien de parler de tout ça parce que c'est vous allez vraiment beaucoup plus loin qu'un hôtel classique.
Oui,
bien-être des familles, des enfants, le côté éducatif et bienveillance, le côté environnement qui est présent même au sein même de l'hôtel avec les plantes, comme tu m'expliques, petit marché, développement local. Donc
ça passe aussi par le
tout
côté
un écosystème, je dirais.
Le côté sécurité aussi, on est très poussé au niveau sécurité, ce qui ne se fait pas beaucoup dans les hôtels en Calédonie. Donc avec la carte de la chambre, tu n'as accès que à ton étage. Sinon, personne d'autre peut prendre l'ascenseur. Si tu n'as pas pris une place de parking, tu ne peux pas avoir accès au parking souterrain, parce qu'il y a un parking souterrain.
Ok, il y a un parking souterrain.
Voilà, au quartier latin, c'est bienvenu.
Ouais.
Donc, il y a tout un ensemble de choses. Donc, pour faire autrement, il faut d'abord être très bon dans l'hôtellerie, dans la construction, mais après, il faut aussi être très créatif. Et autant on n'est pas... on n'est pas intégré dans un milieu d'hôtellerie calédonien, autant on regarde les dernières tendances d'hôtellerie dans le monde. Ça nous intéresse beaucoup parce que il faut avoir 10 ans d'avance pour être, quand on le temps de construire et de faire les choses, il faut que ce soit adapté à ce que veut la clientèle dans 5 ans ou dans 10 ans, parce qu'on ne peut pas reconstruire, refaire. Donc il faut être créatif et pionnier et tout en n'étant pas... C'est pas parce qu'il y a un truc qui se fait depuis 20 ans qu'il faut continuer à le faire. Donc il faut regarder ce qu'on va faire dans les 10 prochaines années.
Ouais, il faut être acteur du changement, de l'innovation.
Et puis sans prétention, il faut voir ce qui se fait ailleurs. Les bonnes idées, il y en a partout. Et la certification existait. Ben voilà, on s'est dit, c'est ce sur quoi on veut tendre. Il a fallu faire un gros effort, mais aujourd'hui, on y est. Et on y est pour toute la vie de l'hôtel.
C'est vraiment excellent. Aujourd'hui, s'il y a des gens, donc si on peut parler un peu du côté, on va dire, visibilité, comment les gens peuvent réserver une place? Je sais que vous avez fait la démarche d'être visible sur des plateformes type Booking.
Oui.
Alors je connais celle-là, il y en a certainement d'autres.
Ouais,
mais vous êtes visible à l'international.
On est visible à l'international.
Et ça fait aussi partie, je dirais, d'une stratégie pour quelqu'un qui veut acheter ou un appartement ou à cette hauteur-là au niveau de l'hôtel. Finalement, si on a le plus bel hôtel du monde avec les meilleurs critères environnementaux, confort, etc. Si on ne sait pas qu'il existe, effectivement, on n'aura pas de clients. Vraiment, c'est l'un des maillons les plus importants qui arrive enfin, effectivement, et qui est vraiment important, ce maillon visibilité, marketing.
On a un positionnement marketing assez moderne aussi, où on est quasiment exclusivement online. Donc on a une page Facebook qui est assez dynamique, enfin on essaie en tout cas. On a un site qui est, j'espère, bien conçu et avec des liens avec avec les, donc tout ce qu'on trouve en ligne type booking. Donc là on a, puis on a des professionnels qui savent, donc la directrice d'exploitation et le directeur adjoint savent gérer ça parfaitement. Donc on peut être très réactif aussi par rapport à tout ça, mais là c'est tout récent, ça fait, c'est au mois de juin où on était.
Ouais, ça vient de se lancer finalement.
Ça vient de se lancer. Donc on a monté en puissance et c'était un gros travail de choisir les outils les meilleurs et les plus simples à utiliser pour notre staff, parce que nous on estime qu'à l'accueil, la personne doit être accueillante. Et si ça devient un hyper technicien, généralement on perd le côté qualité d'accueil.
D'accord.
Donc on avait la volonté de faire les choses le plus simples possible et. Parfois, c'est très compliqué de faire simple, ouais, malheureusement. Ouais. Ouais. Donc, on a bien tâtonné. Aujourd'hui, on est assez content du résultat.
Ce qui n'est pas forcément évident, c'est de centraliser un peu les infos. Hein. C'est ça, quand tu as des réservations sur une plateforme, deux sur une autre.
Et là, on est le seul à nous mettre complètement connecté. C'est-à-dire que l'information tombe. Alors, bon, ça met peut-être 30 secondes, une minute. Il n'y a pas de manip à faire.
Ok, c'est automatisé. Via votre site internet et des infos peut-être.
Notre compta aussi est automatisé. La compta est faite d'office, tout est automatisé. Quoi. Donc, ça, au niveau exploitation,
Si c'est automatisé, c'est clair que ça simplifie. Ouais. Quelque chose, ça permet d'éviter les erreurs humaines aussi, j'imagine.
Oui. On essaye. Il y en a toujours, mais on essaye. Ça permet de bien limiter.
Du coup, c'est un programmeur qui vous a.
Non. C'est des logiciels. Après, qui utilisent dans l'hôtellerie, qui coûtent assez cher, qu'il faut après personnaliser à notre.
D'accord.
C'est
des outils existants déjà que vous avez adapté un peu.
Au début, on voulait faire un outil très simple en ligne par abonnement. Qu'on personnalise et finalement on a fait l'inverse, on a pris un truc très compliqué qu'on simplifie en fait, on va faire simple. Mais on a tâtonné au début, on a fait l'inverse, ça n'a pas marché, c'est-à-dire que c'était trop simple et quand on a fait des cas de figure, beaucoup de cas de figure différents, ça devenait réceptionniste avec 15 touches différentes, enfin c'était trop compliqué à gérer et on a préféré utiliser un outil très compliqué et bridé entre.
On peut connaître le nom de cet outil pour ceux qui sont intéressés par la gestion hôtelière.
D'ailleurs, c'est Roommaster.
Roommaster, d'accord.
Voilà. Okay. Et puis les dernières évolutions, parce que même les gros intervenants doivent se mettre à Internet et autres. Et donc, ils ont développé des choses qui simplifient leur outil et qui permettent de l'interconnecter plus facilement.
D'accord. Okay. Donc, tu peux par exemple le connecter à Booking ou.
Il est connecté à Booking. Okay. Voilà. Puis à Booking, on est le seul, par exemple, sur Booking, à pouvoir ne pas payer en ligne. C'est-à-dire que la personne peut réserver en ligne et payer. Il n'a pas envie de donner sa carte sur Internet.
Okay.
Il peut payer à l'arrivée.
D'accord.
La réservation est effective. Alors qu'on est les seuls en Calédonie à faire ça.
À faire ça, ouais. Voilà. C'est quand même un risque à prendre et un
risque à prendre
les gens.
Mais on n'a pas de désistement. En fait, les gens, c'est simplement, ils sont réticents à mettre leur carte en ligne pour des raisons qu'ils veulent. Hein.
Ouais.
Et donc là, ils ont pas
plutôt de. Tendance à venir chez vous.
Du coup, ils ont plutôt tendance à venir chez nous. Ils ont réservé, ils sont rassurés, ils ont une réservation avec un retour. Nous, on peut pas louer, c'est nous qui prenons le risque. On peut pas louer la chambre à quelqu'un d'autre, sauf à faire du surbooking, mais bon. On n'en est pas là.
Okay.
Quand ils ont le loisir de venir quasiment ou pas venir, puisqu'ils sont pas plus engagés que moralement. Quoi.
Effectivement, ouais. Super. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était vraiment richissime. Surtout pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce genre de projet, hein, que ce soit ici ou en métropole, ou à des échelles plus petites. Je te propose maintenant de passer aux trois questions que je pose à tous les invités qui passent derrière ce micro de podcast. Est-ce que tu peux, la première question, c'est est-ce que tu peux nous citer une référence qui t'a inspiré? Ça peut être un livre, un site web, une personne, quelque chose qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui via la gestion de patrimoine, via ton parcours, peut-être amené à être gérant d'une société dans l'hôtellerie.
Alors, dans l'hôtellerie, je n'ai pas tellement d'exemples parce que je suis tombé un peu par hasard.
Ouais, c'est
vrai. C'est plutôt dans la gestion de patrimoine où j'ai les études que j'ai faites, où j'ai eu des genres de mentors, où c'était des professionnels qui ont lancé leur propre société de gestion. Et ça m'a passionné. Je pensais à Didier Le Ménestrel de la Financière de l'Échiquier ou Marc Tournier de Finance. Donc, ça, c'est assez vieux, hein, c'est les années 90.
D'accord. Le nom de la deuxième boîte peut nous redire
Tocqueville Finance.
D'accord.
Et après, tous les deux partisans de la gestion dite value, popularisée par Warren Buffett, le gestionnaire value le plus connu au monde.
Ouais.
Après, il y en a tout plein. Pour se développer dans les affaires, je suis plus en lien avec la mentalité anglo-saxonne où il faut se développer, il faut faire du développement personnel soi. Donc on n'arrête pas de faire du développement personnel, de se faire coacher, de suivre des formations. Donc on en fait tous les ans. Donc il y en a des tonnes. Donc pour en citer un en particulier, en ce moment on s'est coaché par exemple sur la CNV, la communication non violente.
Ouais, ouais.
On a un coach qui est au Québec, donc on a rendez-vous avec lui tous les 15 jours pour se faire coacher là-dessus.
Ah, carrément, ouais, c'est ouais. Un vrai couche de
sur qualité, quoi.
Ouais, d'accord.
Ouais. Et puis là, on est sur la gestion de l'organisation, parce qu'on a toujours, c'est toujours compliqué.
Ouais.
On va se faire coacher, on a prévu de se faire coacher par un Français qui vit en Australie, qui est un coach célèbre, je ne me souviens plus le nom. Et donc, on a eu déjà un rendez-vous avec lui hier. Par téléphone, et on va devoir faire un Skype bientôt, puis on va sans doute faire ça, j'imagine, en septembre, parce que ça prend le temps de s'organiser un petit peu. Donc on n'arrête pas d'avoir de s'inspirer, outre les lectures, mais qui sont un petit peu plus connues. On a suivi BMA aussi avec Steve Amblin l'an dernier, c'était très intéressant.
D'accord, qui est un coach, on va dire, tahitien.
Tahitien, qui a fait une session en Calédonie, il a peut-être fait une deuxième, et cette année, je ne sais pas s'ils vont en faire une, mais c'était extrêmement intéressant.
Vous êtes vraiment dans cette démarche d'auto-formation, finalement.
C'est bateau, mais si on veut agrandir son business, il faut d'abord s'agrandir soi. Ouais. C'est très bateau comme.
Je crois que t'as touché la deuxième question, un proverbe qui t'inspire. Je pense qu'elle est toute trouvée, celle-là. Pour agrandir son business, déjà s'occuper de soi et s'agrandir.
Un peu comme ça.
Se donner de la valeur à soi, finalement.
Soit on choisit de dire c'est de la faute des autres et puis on fait rien, soit on essaie de dire on essaie de s'agrandir soi.
Ouais.
C'est pas toujours facile, mais bon. Il faut y travailler en tout cas.
C'est un chemin. J'imagine que c'est là aussi d'où vous tirez votre créativité, votre capacité à relever des défis.
Ça permet à travers les questions que posent les coachs, c'est leur rôle. Hein. Ils nous posent des questions et c'est nous on y répond nous, mais on le ferait peut-être pas spontanément. Donc lorsqu'on fait un terrain, on voit d'autres techniques, mais c'est pas tellement pour voir d'autres techniques, c'est pour passer le temps à savoir ce qu'on a vraiment envie de faire, quelles sont les valeurs ajoutées de notre business, qu'est-ce qu'on va. Ce genre de choses.
Super. Du coup, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune Calédonien ou une personne qui souhaiterait investir soit dans l'immobilier, soit dans divers types d'investissements, puisqu'il y a divers supports, comme tu nous l'as bien expliqué, mais qui n'ose pas se lancer pour, par exemple, un certain nombre de raisons, comme les peurs. On connaît tous cette peur du premier investissement, ça nécessite des financements, d'aller voir des banques, faire des démarches qu'on n'a pas l'habitude.
Ce que je dirais à un jeune Calédonien, j'espère qu'il croira en l'avenir, donc c'est de croire en l'avenir. En Calédonie, on a cette problématique-là qui est un peu exacerbée, mais c'est la base de tout, c'est de croire en l'avenir, et si on croit en l'avenir, il faut y aller, quoi. Et puis qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. C'est-à-dire que soit on réussit, soit on apprend. Les anglo-saxons, les américains, disent souvent que pour être un bon chef d'entreprise, il faut faire 3 faillites. Donc se planter, c'est pas grave, on apprend souvent beaucoup plus en se plantant qu'en réussissant. Donc il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et je dirais, plus tôt on y va, plus c'est facile, quoi. Parce que. On chute plus vite parce qu'on chute tous, hein.
Ouais.
On se plante tous, hein. Moi ça m'est arrivé
forcément,
pas mal de fois, donc plus vite c'est fait, mieux.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, mieux c'est.
Mais je crois que c'est une belle leçon que tu nous dis là. C'est très bien, je pense, de finir par là, parce que je pense que c'est le premier pas. C'est de, comme tu dis, de se former et puis de ne pas avoir peur de se planter, puisque ça fait partie du process qui peut aboutir finalement à faire des projets de plus en plus gros en fonction petit à petit, quoi.
Puis je pense que sincèrement, les, les anglo-saxons voient ce que nous on va appeler comme échec comme un apprentissage. Plutôt que d'aller faire un troisième cycle ou quelque chose, vaut mieux lancer une boîte et se planter, on apprendra beaucoup plus. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études, c'est intéressant, hein, je ne crache pas dans la soupe, mais rien ne remplace l'expérience et l'échec en fait partie. Et c'est la réaction par rapport à l'échec qui est importante, donc il ne faut pas se démotiver, il faut continuer. Puis voilà,
super message. Du coup, dernière partie, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver, tu peux nous donner le site internet, un numéro de téléphone, où est-ce qu'on peut réserver si on souhaite découvrir ce bel hôtel de Gondwana?
Alors, on peut le découvrir donc, dans Nouméa, au quartier latin. Donc, au quartier latin, c'est le quartier qui monte à côté du centre-ville. On a un site internet qui s'appelle hôtelgondwana.nc.
Tu le trouves sur Google, j'imagine,
voilà, facilement.
Gondwana
comme le continent,
le grand continent.
Gondwana.
Ok.
Voilà, on le trouve assez facilement. On a un numéro de téléphone pour ceux qui utilisent ce mode de réservation, c'est le 26 97 99. Pour ceux qui veulent jeter un œil avant de réserver, ils peuvent très facilement demander à la réception de rentrer dans l'hôtel parce que c'est surprenant, parce qu'on est dans. On est dans un milieu urbain, puis il y a un petit cœur de verdure à l'intérieur, donc c'est assez sympa.
Ouais, effectivement.
Donc venez voir. Donc,
super sympa. Voilà. Pour gens peuvent venir voir et se rendre compte par eux-mêmes.
Exactement.
Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, faire passer un message? Là, c'est à toi de.
Alors pour les professionnels pour les entreprises, on fait des prix entreprises qui sont pas des prix affichés, qui sont aussi très avantageux. On a déjà des tarifs, comme on a un nouvel hôtel, il faut qu'on conquiert une nouvelle clientèle. Hein,
et, ouais.
Donc, on a des prix extrêmement compétitifs. Et pour une offre qui est sans conteste la meilleure de Calédonie, puisque l'hôtel est neuf, c'est assez facile parce qu'on est le seul à être un hôtel neuf. En plus, on a des tarifs canons et on a des réductions pour les professionnels. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour si vous avez l'occasion de venir plusieurs fois régulièrement sur nous, descendre sur Nouméa et chercher un hôtel. On fait des offres pour les entreprises.
Super. Donc, je rappelle, téléphone, c'est le 26 97 99. Mm-hmm. Le site internet également, le Facebook et des plateformes comme Booking. Je ne sais pas si vous avez d'autres plateformes. Vous pouvez aussi utiliser d'autres plateformes pour peut-être les gens de métropole aussi qui viennent nous rendre visite en Nouvelle-Calédonie.
Oui. Ça se bâtit, hein, les tours opérateurs. On est seulement en train de bâtir les programmes.
Ça prend son temps. Oui, c'est sûr.
Le temps que ça se. En puissance d'abord. Ouais. Hein, la première année dans l'hôtellerie, on appelle ça l'année de déverminage. Donc il y a plein de petits problèmes à régler. Donc on est en plein dedans. On avance très très bien parce qu'on s'est staffé suffisamment pour avancer vite dans le sujet. J'espère que là, dans les fin juin, on sera vraiment parfaitement opérationnel.
Merci beaucoup Sébastien pour ton témoignage très très riche. Je pense que les gens ont appris beaucoup de choses aujourd'hui sur tous les plans. Merci pour ce partage d'expérience, pour ta sincérité et le détail de tout ce que tu as pu nous apporter. Vous allez retrouver en fait toutes les références du podcast en fin d'épisode. Avec les liens, des éléments dont on a parlé. N'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager dans votre entourage pour que le podcast puisse se faire connaître et qu'il y ait de plus en plus de gens intéressés qui trouvent ce podcast, notamment sur iTunes ou les autres plateformes de diffusion. Merci encore et je te dis peut-être à l'année prochaine pour faire le bilan de l'hôtel et voir tous les beaux progrès que vous aurez fait d'ici là.
Avec plaisir.
À très très bientôt. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés chaque semaine. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao.